tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, comme je l'ai mentionné dans la précédente balado, on va parler de A à Z, donc il n'y aura pas d'épisode séparé, mais le cas de ce soir est un petit peu plus long que le précédent, ou plutôt les deux précédents qu'on a dû rassembler pour en faire un seul. Alors, ce soir, c'est le meurtre d'une femme dans la région de Trois-Rivières qui, semble avoir fait la manchette là à l'époque des faits, mais qui a vite été oubliée, malheureusement, parce que, on parle souvent des mêmes cas, les plus connus, qui sont plus près de nous dans le temps. Donc, il y a des cas qui reviennent, qu'on connaît par cœur, où les noms sont plus connus, mais ici, ça m'étonnerait que vous le connaissiez. La victime s'appelait Mary Richardson. Elle avait 28 ans. Et je ne veux pas être péjoratif, je ne veux pas être négatif en disant ça, mais il faut être honnête parce que ça fait partie... Là, je parle de victimologie, évidemment. Donc, ça fait partie d'un tout, donc des circonstances d'un crime. Et c'est important, peu importe la vie que menait la victime, il faut en parler, c'est important. Parce que ça peut faire partie, justement, de la résolution du crime. Ça peut nous aider à comprendre pourquoi elle était à risque. Et on peut s'en aller vers une certaine, je le mets en guillemets, une certaine clientèle pour rechercher un tueur et tout ça. Donc, je prétends pas, évidemment, vouloir résoudre le crime de Mary Richardson ce soir, parce que, surtout, ça se passait en 1855. Au mois de juin, d'ailleurs, le 23 juin 1855. Et pour les habitants de Trois-Rivières ou de la Mauricie, vous connaissez certainement la rivière Saint-Maurice, qui c'est pratiquement sur elle... grâce à elle que la Mauricie s'est développée avec le bois de flottage qui a arrêté d'ailleurs ses activités jusqu'en 1995. Donc, pour les personnes comme moi qui sont nées avant 1995, c'est possible que vous vous rappeliez du bois de flottage sur la Saint-Maurice. C'était un moyen de transport naturel et tout ça. C'était juste pour une introduction pour la rivière Saint-Maurice. Mais c'est justement dans la rivière Saint-Maurice, à un demi-mille de Trois-Rivières, que le corps de Mary Richardson a été découvert le 23 juin 1855. À l'époque, on a rapidement écrit à propos d'elle et de ses origines. Apparemment qu'elle était originaire de Montréal et qu'elle abusait aussi de l'alcool. Donc, on peut présumer qu'elle était peut-être une itinérante ou ce qu'on appelait... à l'époque, j'ai de la famille qui vient de la campagne et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies à peine, on les appelait les quêteux. Les quêteux, ils se promenaient de village en village et puis, c'était pas pour répandre la bonne nouvelle, c'était justement pour quêter de la nourriture, de l'alcool et tout ça. C'était finalement des sans-abri de l'époque. Mais les sans-abri de l'époque, je présume, je ne ferai pas un historique, je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais aujourd'hui, les itinérants peuvent rester sensiblement dans un même quartier, dans une ville, et survivre, à cause de la générosité des gens, des commerces qui sont là, tout ça. Mais à l'époque, c'était plus étendu, je pense. Donc, c'est ce qui obligeait les itinérants à se promener un peu plus de village en village. Et il faut dire aussi... que je pense, là je m'avance un peu, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui suivaient la route ferroviaire. Et la route ferroviaire entre Québec et Montréal, je pense qu'elle était assez achalandée de ce côté-là. Et jusque dans les années 50, 60, il y en avait des vagabonds, principalement dans les années 50. Je connais des personnes qui sont capables d'en témoigner encore aujourd'hui, dont ma mère, et il y en a qui dormaient à la maison. C'était des personnages inquiétants parce qu'on ne savait pas d'où ils venaient, puis on ne savait pas où ils allaient, qui ils étaient aussi. Est-ce que c'était des repris de justice? C'était juste des gens qui avaient un problème psychiatrique? Je pense qu'il y a un peu des deux dans ça. Il devait y avoir des voleurs, des malfaiteurs et peut-être même des tueurs. Alors, voilà, c'est mais dans le cas de Mary Richardson, c'était peut-être juste pour se déplacer et tout ça. Et peut-être aussi qu'on peut présumer que, je sais pas, là, on s'avance aussi qu'elle vendait peut-être son corps pour arriver à retirer quelques sous à l'occasion pour pouvoir survivre. Et c'est un autre détail qui peut être important, c'est qu'elle sortait à peine de la prison de Trois-Rivières, donc 2 jours plus tôt seulement, elle était encore emprisonnée dans de ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille prison de Trois-Rivières, qui a fermé en 1986 à cause de sa désuétude. On dit d'elle qu'elle vagabondait dans les rues de Trois-Rivières, mais peut-être pas juste Trois-Rivières non plus. Et j'ai consulté le registre des écrous pour cette affaire-là, donc des archives de première main, si on veut. Donc, c'est de la plus grande importance. Si on n'a pas le dossier judiciaire, au moins ça fait partie d'un autre gamme d'archives. Et selon le registre des écrous, ceux qui ne savent pas ce que c'est, le registre des écrous, ben, c'est le registre, dans le fond, de la prison. Quand des nouveaux prisonniers arrivaient, ben on cochait certaines cases. Bon, on inscrivait le nom, par exemple. On pouvait inscrire aussi la grandeur, une certaine description physique, savoir aussi s'ils savaient lire ou pas et de quelle religion ils étaient. Alors, justement, cela nous apprend que Mary, je vais prononcer en anglais, parce que je pense que c'était une anglophone avec un nom comme ça. Donc, on sait qu'elle savait lire, qu'elle avait aussi les cheveux et les yeux bruns. Donc, ça nous permet de nous en faire une vague idée. Et on la disait de religion protestante. Selon un article qui a paru à l'époque dans le journal L'Ère Nouvelle, on dit que, elle s'est retrouvée dans le trouble, finalement, au cours des jours ayant précédé sa mort. Donc, j'imagine que c'est dans ces 2 dernières journées-là, donc entre sa sortie de prison et sa découverte dans la Saint-Maurice. On dit, je vais le lire, là, parce que c'est quand même pas... je vais l'expliquer ensuite, parce que des fois, le français de l'époque est pas celui d'aujourd'hui, hein? C'est pour ceux qui aiment la langue, par exemple, les tourneux linguistiques et tout ça, c'est super intéressant. Alors, je vais lire ce qu'on écrivait sur elle. J'ouvre les guillemets. Peu de jours avant sa mort, elle avait été vue au milieu d'une bande de mauvais sujets qui la maltraitaient sans que personne n'osât, on ne pût la retirer de leurs mains. Voyez-vous, hein, c'est pas évident à lire non plus. Je poursuis. La veille du jour où son cadavre fut trouvé flottant sur l'eau, plusieurs l'ont vu vers 9h ou 9h30 du soir en compagnie de 2 ou 3 vauriens. Ceux-ci, paraît-il, la maltraitèrent cruellement. On l'entendit jeter des hauts cris et dire, entre autres choses, « Laissez-moi, je m'en vais à Montréal. Par où embarque-t-on pour Montréal? » Vers 10h, l'équipage d'un bateau à l'ancre tout près du rivage vit quelqu'un descendre la côte, entraînant quelque chose sans pouvoir rien distinguer et sans pouvoir obtenir aucune réponse malgré leur demande « Qui va là? » 2 d'entre l'équipage s'armèrent chacun d'un fusil, mais la peur les empêcha d'en faire usage. Ils n'eurent ni le courage ni la curiosité de voir ce qui se passait. Le lendemain matin, le cadavre d'une malheureuse était trouvé flottant sur l'eau. À 20 pieds environ du bateau, on remarquait encore le matin une large trace tout le long de la côte et l'empreinte des pas de celui ou de ceux qui avaient traîné le corps jusqu'à la rivière. Les bas de la malheureuse étaient encore sur le rivage, et tout cela se passait à 9h30 dans la ville de Trois-Rivières à 20 pieds d'hommes armés, et les coupables en sont encore ignorés. Quelle sûreté y a-t-il ici pour la vie de celui qui a besoin de sortir le soir? Et je ferme les guillemets. Donc, c'est quand même... moi, je trouve ça que c'est un texte quand même intéressant. C'est sûr que c'est un niveau de français très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais bon, dans un premier temps, Il y a des témoins qui étaient prêts à dire que si on avait eu un procès, entre autres, qui étaient prêts à dire qu'elle avait été malmenée par certaines personnes. On parle de 2 ou 3 personnes, au moins, des vauriens. C'est peut-être un mot qui est moins à la mode aujourd'hui, mais des vauriens, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vaut rien. Voilà. C'était des pas fins, finalement. Je sais pas, vous avez peut-être d'autres mots là, dans les nouvelles générations. Là. Vous me les partagerez. Je ne veux pas aller trop loin dans mes mots. C'est pas ma spécialité non plus de blasphémer, comme on dit. Mais quoique des fois, c'est bon de se laisser aller. Mais tout cela pour dire que voilà, je pense qu'elle a passé un mauvais quart d'heure, Madame Richardson. Et l'autre aspect que je vois dans ça, c'est que je me suis imprégné de ça. On voit qu'on la cherche à un moment donné dans la noirceur. Et là, il faut dire qu'on est en 1855 et les lumières de rue et tout ça, la ville ne devait pas être très, très, très bien éclairée. Provenez-vous le soir aujourd'hui, puis c'est quand même assez sécuritaire, tout dépendamment du quartier où vous êtes. Mais Trois-Rivières, aujourd'hui, je pense, à moins quelques exceptions, c'est quand même assez sécuritaire. Et évidemment, si on se rapproche de la rive du Saint-Maurice, on rentre dans les broussailles un peu, on s'éloigne des rues, ben c'est sûr que là, à ce moment-là, il y a peut-être des zones de noirceur et où il y a des choses qui peuvent se passer un peu plus à l'abri des regards. Mais bon, bref, c'est sûr qu'à cette époque-là, ben, les lumières de rue, on oublie ça. L'électricité était même pas... le Québec avait même pas été électrifié encore. On est loin de tout ça. Donc, le côté sombre et tout ça, faut le comprendre aussi. Que pour les hommes qui ont essayé peut-être de faire quelque chose pour la sauver, ben qui n'ont pas pu, parce que oui, ils risquaient leur vie peut-être aussi. Ils pouvaient même risquer de se faire assassiner, mais peut-être justement de risquer de tomber à l'eau, tout simplement, puis de pas être retrouvé par leurs amis en pleine noirceur, ils pouvaient se noyer. En tout cas, bref, il y a plein de possibilités dans ça. Et c'est pas assez précis non plus pour dire ce qui s'est vraiment passé. C'est plus au niveau auditif que survit, dans le fond, le récit, parce qu'on l'a entendu crier et on a entendu des bruits et tout ça. Mais au moins, on l'a entendu dire que elle semblait en danger, parce que là, elle demandait même de retourner à Montréal, puis bon, bref, elle demandait qu'on la laisse tranquille. Et dans la dernière partie du texte que je vous ai lu, on fait allusion au fait que la dernière phrase dit que elle se trouvait à 9h30 le soir, ce qui est quand même pas très tard. Aujourd'hui, on a plus tendance à dire ben, c'est plus dangereux plus on se rapproche de minuit, par exemple, ou en pleine nuit. Mais là, il était juste 9h30, hein. Faut quand même pas capoter avec ça. C'est pas... Surtout en été. Le 23 juin, on n'est pas loin de la journée la plus longue de l'année. Et la journée la plus longue de l'année, 21 juin, normalement, ben il fait clair encore à 9h le soir. Donc, ça faisait peut-être juste une demi-heure à peine, et même pas quelques minutes, qu'il faisait un noir plus d'encre, comme on dit. Alors, peut-être même qu'il y avait encore certaines lueurs dans le ciel du côté ouest, c'est possible. Mais ce que je veux en venir, c'est qu'on faisait allusion aussi que, étant donné que c'est surprenant, parce qu'on était à 20 pieds d'hommes armés, est-ce qu'on faisait allusion à certains surveillants et non pas des policiers, parce que la police de Trois-Rivières n'était pas créée encore à cette époque-là, elle n'existait pas, mais des hommes armés, peut-être qu'on engageait à l'occasion, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs dans certains cas, on engageait des surveillants de nuit, par exemple, armés. Mais là, on dit armés, à l'époque war, je ne penserais pas que ce soit des revolvers ou des pistolets, là. C'était peut-être plus des matraques, là, des choses comme ça, quand ça a commencé. Mais c'est ça, on se surprenait donc d'ailleurs dans le texte que ce soit passé assez près de la population, finalement. Alors, voilà, et qu'on l'ait ignoré. Finalement, c'est ça, c'est ce qui a permis aux coupables de s'en tirer, malheureusement. Et la dernière phrase de ce texte-là, justement, je vais la relire, ça dit « Quelle sûreté y a-t-il ici pour la vie de celui qui a besoin de sortir le soir? Alors, on s'inquiétait vraiment, c'était d'intérêt public. Le meurtre de Mary Richardson, je pense que c'est ça qui l'a soulevé à l'époque. Et on voit qu'on y a quand même consacré certains articles assez longs, ce qui n'était pas courant là à l'époque. Bien souvent, ben vous l'avez vu là, dans les premiers cas non élucidés qu'on aborde depuis le début de la balado. Bien souvent, il n'y a pas grand-chose. On ne peut pas se tourner vers des détails importants et tout ça. Et cette phrase-là, je pense, c'est difficile à prouver, évidemment, là, parce qu'on n'est plus à cette époque-là, puis il faudrait trouver d'autres éléments dans les archives. Mais bon, vu que c'est un cas non résolu et qu'il n'y a jamais eu de procès, c'est difficile d'en trouver. Alors, c'est peut-être ça, par contre, qui a allumé l'opinion publique. Et vous allez voir que le même journal même a soulevé des doutes sur la compétence des jurés du coroner, en plus de souligner la nécessité de créer un véritable corps de police à Trois-Rivières. Ah ah! Alors voilà, là on commençait vraiment à se sentir, à ne pas se sentir en sécurité. C'est peut-être ce que le meurtre de Mary Richardson a permis de mettre à jour. C'est le fait qu'il était peut-être temps de créer un corps policier à Trois-Rivières. Et le journal à ce sujet écrivait même, et j'ouvre les guillemets, « Ce sont tous de braves et honnêtes gens, mais le public aurait mieux aimé voir cette fois surtout les jurés plus instruits et capables de bien profiter de toutes les circonstances pour faire un rapport raisonné et raisonnable. Nous espérons avec le public qu'on sera plus sage à l'avenir dans la formation d'un corps de jurés. Et cette mort devra convaincre les citoyens de l'efficacité d'une police pour la ville, s'ils tiennent à conserver la vie de leurs femmes et la leur. Le rouge nous monte au front en écrivant ces lignes, car le fait que nous racontons est une disgrâce pour la ville. Rien de moins, je ferme les guillemets. » Alors, est-ce que ça a fait bouger les choses? Je vous pose la question. Allez-vous me répondre? J'imagine que non, hein? C'est, en tout cas, pas ce soir au moment que j'enregistre la balado, évidemment. Je suis pas cave à ce point-là. Mais oui, il y a eu une réponse. Parce que, écoutez bien ça, la ville de Trois-Rivières a fondé, 2 ans plus tard, son premier corps de police, la fameuse police de Trois-Rivières. Et elle est entrée en fonction le 26 octobre 1857. Donc, est-ce que c'est une coïncidence ou la pression populaire a fait en sorte que, finalement, ça a pris quand même 2 ans là, pour mettre ça sur pied, tout ça? Est-ce que ça a un lien? Je sais pas. Hein? Je vous pose la question, vous répondrez à ma place. Mais je ne vais pas vous souffler la réponse, mais je pense que oui. En tout cas, ça serait une drôle de coïncidence, parce que sûrement que pendant ces 2 années-là, les gens en parlent entre eux autres. C'est ça qui est malheureux pour un historien ou un chercheur comme moi, ou bon, bref, tous ceux qui s'intéressent aux détails des faits historiques. Ce qui est difficile à digérer, c'est tout ce qui s'est dit dans les chaumières, comme on dit. Tout ce qui s'est dit autour des tables de cuisine, sur les coins de rue, entre amis, peu importe. « Hey, Tidjo, as-tu entendu ça, l'histoire d'hier? Hein? Oui, Mary Richardson s'est fait égorger, puis elle a fait « Ah, oui, ben oui, ben oui. » Mais c'est ça. Ça, on le perd, malheureusement. C'est pas enregistré nulle part. Donc, on sait pas si, par exemple, le sujet de Mary Richardson est resté sur les lèvres des citoyens de Trois-Rivières pendant ces 2 années-là. Le fait que ça n'ait pas été résolu, peut-être que ça a alimenté plus longtemps qu'un crime ordinaire, parce que on le verra plus tard avec Blanche Garneau en 1920. Blanche Garneau, même si elle a fait parler d'elle encore aujourd'hui, mais à plus petite échelle, on en a parlé pendant des années à l'époque, dans les années 20, et durant au moins 2 ans, ça c'est sûr, parce qu'il y a eu une commission d'enquête royale 2 ans après le crime. Alors, je pense que oui, c'est possible, parce que quand c'est non résolu, les gens reviennent automatiquement là-dessus. Hein? C'est moi le premier. Des fois, je rentre dans une région, je me dis avez-vous entendu parler de telle disparition ou telle chose? Puis tout ça, c'est plus fort que nous autres. Ça nous revient. Oui, des fois, il y a des faits, malgré nous, qui nous reviennent. Ça m'est arrivé aussi, dans mon entourage, de rencontrer par hasard des gens qui avaient connu des personnes disparues ou assassinées, ou, bon, bref, qui ont des liens. Même moi, j'en ai connu qui ont été assassinés. Bref, on se pose des questions tout le temps. Alors, j'imagine que oui. On peut pas le prouver, malheureusement, que le cas de Mary Richardson ait forcé la ville de Trois-Rivières à se munir d'un corps policier. Mais fort probablement qu'il était temps, puis que là, ben, on s'est dit OK, go, on va former ça. Mais j'imagine qu'on ne l'a pas formé en une semaine, évidemment. Et je vais finir sur les détails contenus dans le rapport du coroner. Et le coroner qui était, dans ce cas-là, un dénommé Valère Guillet. Valère Guillet, écoutez, je ne sais pas si on va le croiser plusieurs fois, mais il en a fait des enquêtes de coroner assez pas possible. J'ai vu physiquement, je me souviens pas de quelle année, je vais essayer de vous retrouver ça à un moment donné, mais il a été coroner pendant de nombreuses années, je pense que c'est 40 ou 50 ans. Il est décédé quand même assez âgé, il en a fait pendant longtemps. Il a même fait une enquête de coroner sur l'un de mes ancêtres. Dans les années 1860, donc une dizaine d'années après Mary Richardson. Dans ce cas-là, c'était une mort naturelle. Voilà, il en a fait beaucoup. Il était connu dans la région. Puis bon, il a parcouru aussi la région en calèche et tout ça, par tous les moyens possibles pour pouvoir faire ses enquêtes de coroner. Et même personnellement, j'ai vu aux archives de Trois-Rivières, dans la voûte où on conserve les archives nationales, j'ai vu les papiers originaux d'une bonne quantité des rapports de M. Guillet. Alors voilà, c'est un nom à souligner comme ça, comme on a souligné le coroner Panet, plus dans la région de Québec. Donc c'est des noms qu'on doit, si vous voulez approfondir par exemple des recherches, je pense que ça peut être intéressant, que ce soit pour une recherche en histoire, dans vos études ou peu importe, je pense que c'est intéressant. Puis c'est même primordial, je dirais, de connaître ces personnages-là à travers notre passé pour mieux connaître. Parce que dans le fond, notre histoire du Québec, si vous vous renseignez pas, vous restez sur Internet, grosso modo, vaguement, vous la connaissez pas. Même moi qui fouille depuis 33 ans maintenant dans les archives, principalement, vous me direz, oui, dans les archives judiciaires, mais même moi, je prétends pas la connaître, l'histoire du Québec. Je continue à apprendre encore et encore et encore. Alors, pour ce qui est des détails mentionnés dans le rapport du coroner Guillet, on va terminer avec ça, c'est que, parce qu'on n'en a pas parlé, hein, et lui, il a pu déterminer que Mary Richardson avait été étranglée par un ou des inconnus qui l'ont ensuite jetée à l'eau à la rivière Saint-Maurice pour finalement la tuer par noyade. Voyez-vous? Fait qu'on parle de deux méthodes, ce qui n'est pas étonnant s'il y a plus d'un tueur impliqué. Est-ce qu'il y a eu viol avant? Ça, malheureusement, c'est la réponse qu'on n'a pas. Il n'y avait peut-être pas les moyens, M. Guillet, de vérifier ça, ou il n'a pas, il a peut-être pas pensé de le faire faire par un médecin. C'est malheureux parce que ça aurait pu... tu sais, pourquoi des hommes s'acharnent à tuer une seule femme? Est-ce qu'elle les a vraiment provoquées au point de la tuer? Ça m'étonnerait. Souvent, il y a une connotation sexuelle ou de pouvoir dans ça. Alors, mais bon, bref, on reste un petit peu sur notre appétit sur les détails. Mais le fait qu'il y ait deux moyens qui l'ont étranglé d'abord et ensuite par noyade, j'imagine que c'est le moyen final, là, la noyade. Alors, ils n'ont pas réussi par strangulation. Comme je vous ai déjà dit dans une précédente balado, ce qui arrive dans certains cas, c'est que, bon, tu sais, on voit ça, je parle pas pour cette époque-là, là, mais des fois, on voit ça dans les films, la strangulation, ça se fait une fraction de seconde. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc, quand le tueur réalise que c'est plus difficile qu'il le croyait d'étrangler quelqu'un, parce que c'est quand même assez long, hein, faut maintenir une pression. Imaginez une pression de toutes vos forces pendant 3 à 4 minutes, parce qu'il faut que la personne cesse de respirer au moins pendant ce temps-là pour en mourir. c'est quand même assez long. Alors, bon, la victime se débat aussi. Elle ne se laissera pas faire comme dans certains films. elle va normalement se débattre là, si vous commencez par l'étrangler. Parce que si elle n'a pas été frappée à la tête avant, puis qu'elle est encore consciente, ben elle va faire quelque chose, je pense. À moins que c'était son rêve dans la vie de se faire étrangler par quelqu'un inconnu. Bon, bref, vous aurez compris. Donc, c'est ça qui explique peut-être le fait que, bon, ça n'a pas marché, la strangulation. Ben, on s'est dit, écoute, chérie, on va prendre un autre moyen. Et puis là, si on peut s'imaginer, est-ce qu'il était un ou deux? Donc, s'ils étaient deux, à ce moment-là, c'était plus facile de lui maintenir la tête sous l'eau ou carrément le corps sous l'eau. Alors, voilà. Finalement, c'est le sort qu'on a réservé, malheureusement, à Mary. Et autre petit détail avant de finir, le journal La Minerve, oui, qu'on a vu dans les années 1830, et 20 ans plus tard, il existait toujours. La Minerve a apporté une petite précision qui est quand même intéressante. C'est que les chaussures et le chapeau de Mary n'ont jamais été retrouvés. Alors, voilà, si un de vos ancêtres a trouvé ça, puis qu'il a gardé ça dans un vieux coffre à la maison, ben appelez-moi. On va peut-être résoudre l'enquête. Mais bref, c'est ça. C'est quand même des choses importantes à savoir. Ça met du détail dans l'histoire et tout ça. Non, ça ne nous permettra pas de résoudre l'affaire. Mais bon, on peut se faire une meilleure idée de la façon qu'elle est décédée, malheureusement, Mary Richardson. Et je pense, on peut pas l'affirmer à 100%, mais je pense que son crime a quand même servi à quelque chose, c'est-à-dire la création de la police de Trois-Rivières.